Bonjour, Moho et Mola s'associent sur un projet qui s'appelle la Positive Library. C'est une librairie qui va avoir un endroit physique en Normandie au sein de Moho, mais également plein de livres qui vont être disponibles sur Internet. Et le principe, ce sont des auteurs à impact qui ont recommandé 2 à 3 ouvrages. Donc c'est un objet de curation. En parallèle, Moho et Mola vous proposent une série d'échanges, de conversations avec des auteurs à impact. Et pour ce deuxième événement, sur ce deuxième épisode, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Arthur Auboeuf, cofondateur de Team for the Planet, qui vient de publier Le meilleur est à venir aux éditions Fayard. Bonjour Arthur.
Hello Arnaud, merci de me recevoir.
Ça va ?
Bah écoute, ça va très bien. J'ai la chance d'être resté chez moi où il fait beau aujourd'hui et une fois n'est pas coutume, donc je suis plutôt heureux, oui.
c'est vrai que le principe qu'on vous propose aujourd'hui, le format, c'est celui d'une visioconférence. Et ça s'explique, c'est complètement voulu en réalité. Arthur habite en Haute-Savoie, j'habite à Bordeaux. La Haute-Savoie, Bordeaux et Bordeaux, la Haute-Savoie en vélo, c'est un peu long. Et donc on a voulu préférer un format, ce format de visio. Et derrière, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une idée de cohérence pour toi. J'imagine que c'est compliqué parfois d'aller à Paris ou dans des grandes villes, et ça doit aussi t'empêcher de prendre des opportunités. C'est vraiment ça, c'est un souci de cohérence que tu as avec toi-même.
Oui, carrément, et surtout d'équilibre pour ma santé de manière générale, parce qu'on a vite fait d'être embarqué dans la grande accélération qui nous emporte un peu toutes et tous, sans trop se questionner sur ce qui est notre priorité. Et moi, j'ai choisi quand même que le contact quotidien avec la nature, que le fait d'avoir du temps aussi pour moi, serait ma priorité. Du coup, ça fait que certaines choses sont moins en priorité, et notamment certains déplacements. Donc oui, c'est clair, je loupe pas mal d'occasions, je loupe beaucoup de soirées où il faut être. Mais je gagne aussi beaucoup de points de vie en face et peut-être aussi des choses que je n'ai pas encore bien identifiées mais qui vont me permettre demain de réaliser que j'ai bien fait. En tout cas, déjà, en termes de repos, je peux t'assurer que ça marche bien.
Ce livre, Le meilleur est à venir, c'est un récit positif. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui n'est pas complètement archi-positif, il est même un peu anxiogène. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre et qu'est-ce qu'il raconte personnellement ?
Justement, parce que le contexte est extrêmement anxiogène et parce que je me suis impliqué sur des sujets lourds depuis maintenant 5 ans avec Team for the Planet, je me suis rendu compte au milieu de cette tornade un peu de sujets compliqués qu'en fait, on se trompe en pensant qu'on va nécessairement vers une cascade de contraintes, vers un monde où il va falloir faire des efforts partout, à partir du moment où on redéfinit le mieux. Et en fait, c'est simplement que quand on reste dans une perspective d'un mieux qui est le mieux très commercial, qu'on nous sert partout, pour lequel il y a des injonctions à consommer, à posséder, à être dans le toujours plus en permanence, forcément, quand on reste avec ce regard-là sur le monde, le futur ne fait pas très envie, parce qu'on a l'impression qu'on va nous priver tout d'un coup de tout ce qui est important pour nous, de tout ce qui nous fait du bien. Mais quand on met un peu les mains dans tout ça, on se rend compte qu'en fait, on est dans une transition entre vraiment le Moyen-Âge et une nouvelle Renaissance, et on va être obligé en fait, parce que tout simplement, il va falloir que la planète accepte de nous garder, et si on veut qu'elle accepte de nous garder, il va falloir qu'on fasse certaines choses. En fait, on va être obligé d'aller vers un autre mieux, et qui est un mieux beaucoup plus intéressant finalement, quand justement on arrive à changer un peu de lunettes et à regarder le mieux, l'autre mieux, qui nous tend les bras finalement. Alors là, ça paraît un peu conceptuel, mais en fait, si tu veux, la conclusion de ce que j'ai réalisé ces derniers mois, années, c'est que le bonheur, le vrai bonheur, celui qui nous fait profondément du bien, et par opposition au plaisir, on pourra revenir là-dessus, en fait, il est complètement compatible avec les limites planétaires. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, aller vers un monde où les comportements humains sont plus alignés avec les limites planétaires, c'est d'abord aller vers un monde qui nous rendra profondément plus heureux. Et en fait, le constat que je fais, et tu le fais hein, justement en intro aussi, c'est qu'on est dans une période compliquée, mais d'abord au regard du présent. Je veux dire, c'est ce dont on nous parle tout le temps, la santé, l'espérance de vie baisse aux États-Unis, c'est la première fois. La santé mentale, il y a des énormes problématiques partout chez les jeunes, mais pas que. Le sens au travail, c'est un peu une catastrophe. Justement, le bonheur, parce que maintenant il y a des indicateurs autour du bonheur, ça va pas bien non plus. Et donc, avant de sauver le futur, peut-être qu'il va falloir déjà sauver le présent. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que les remèdes du présent sont ceux qui permettent aussi de s'assurer un beau futur. Et c'est ça vraiment ce que je réalise depuis quelques mois et qui m'enthousiasme particulièrement, parce que soudain, je me rends compte non seulement qu'on va pouvoir aller vers un monde qui va être meilleur pour nous, mais en plus que ça se fera sans avoir à faire d'efforts du point de vue écologique, parce qu'en fait, les efforts, faut qu'on les fasse pour notre bonheur. Et ça, il n'y a rien de plus urgent. Et donc j'aime bien dire dans le livre, n'essayez pas d'être écolo, essayez d'être heureux, mais heureux pour de vrai. Et ça, c'est un gros sujet. Et quand on ouvre cette parenthèse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, beaucoup de croyances sur ce qui nous rend heureux, une vision du succès, une vision de la réussite qui est en fait très biaisée et qui est une machine à malheur. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous fait du bien. J'aime bien utiliser l'analogie de la roue du hamster. En fait, on a l'impression qu'on peut être mieux en achetant une roue de hamster plus grande. Mais la réalité, c'est qu'il faut sortir de la roue du hamster. Et donc, ce que j'appelle la roue du hamster, c'est cette mécanique du toujours plus dans lequel on est toutes et tous, où il faut toujours accumuler plus, gagner plus, travailler plus, être plus efficace, performant, être un agent économique plus optimisé. Et on est tous embarqués là-dedans sans trop savoir pourquoi. Et on constate au quotidien que ça ne nous fait pas du bien en plus. Et donc, c'est un vrai sujet parce que ça ne nous fait pas du bien à nous et ça ne fait pas du bien aux écosystèmes. Donc, c'est en plus en train de foirer notre futur, quoi.
Une des clés que tu exposes dans ton livre, c'est ce rapport au vivant, ce nouveau reconstruire, réinventer ce rapport au vivant. Toi, tu le vis au jour le jour pour des citadins, pour des gens qui ne font pas les choix que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques clés, quelques conditions, quelques premiers mouvements à mettre en place pour retourner vers ce rapport, pour retrouver ce rapport au vivant?
En fait, déjà, il faut avoir envie d'être heureux profondément, sincèrement. Il faut que ça soit une quête qu'on mène, mais je pense qu'on est nombreuses et nombreux à mener cette quête-là. Et moi, c'est vraiment un déclic que j'ai eu grâce à un contact régulier avec la nature, notamment, c'est que le bonheur est tout le temps là, en fait. C'est un état permanent, et j'en parle dans le livre, sauf qu'il faut qu'on arrive à attraper le bonheur. Et donc, la question, c'est pas de faire en sorte que le bonheur nous arrive. La question, c'est d'activer le bonheur qui est tout le temps là. Et le truc, c'est qu'on ne sait plus attraper le bonheur. Et je prends l'analogie, en tout cas, je dis qu'un enfant, quand il est petit, c'est très facile pour lui. C'est quelque chose qu'il a de manière intuitive. On regarde une fourmi, on est heureux parce que c'est beau, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. On regarde le bruit du vent dans les feuilles d'un arbre, ça nous fait du bien. Le soleil sur notre peau, ça nous fait du bien. C'est plein de choses qui sont en fait les choses les plus importantes d'une vie sur Terre, mais qu'aujourd'hui on a vachement dénigré avec notre mécanique civilisationnelle et qui sont pourtant absolument essentielles. Moi, j'adore une citation qui dit « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ». Je trouve qu'elle résume absolument ça, puisqu'en fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour réapprendre à accéder au bonheur. Et un des leviers principaux pour ça, c'est l'émerveillement. Et donc, ce qui est triste, c'est de constater qu'on désapprend le bonheur, en fait, dans nos sociétés. On devient de plus en plus blasé. Et moi, j'aimerais qu'on laisse la place de l'espèce la plus blasée au chat, et parce que je pense qu'il la mérite très largement. Mais je pense que le gros sujet autour du bonheur, c'est aussi d'être capable de reconnecter, en effet, avec le monde autour de nous. Il y a eu une étude très intéressante qui est sortie récemment, qui a été menée en Angleterre sur plus de 8000 personnes qu'ils ont suivies pendant des années. C'est une étude qui a coûté 6 millions d'euros, enfin de livres. Et le bilan de cette étude, c'était quels sont les effets de la nature sur des humains. Et donc, ils ont pris des gens très urbains, des gens très peu urbains, très ruraux, etc. Et la conclusion de l'étude, c'est qu'il faut prescrire médicalement la nature aux humains. Et c'est quand même assez fou de devoir arriver au stade où on fait des études pour conclure ça. Parce qu'en fait, on a vécu pendant des millions d'années en tant qu'hominidés et puis en tant qu'ancêtres de Homo sapiens sapiens dans la nature. Évidemment que s'enfermer entre des murs de béton et passer 15 heures par jour sur un écran, c'est pas un truc qui nous fait fondamentalement du bien. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être très très malin pour se rendre compte que ça fait partie des choses qui nous posent problème aujourd'hui et qui font qu'on n'est pas très heureux et que peut-être on bousille tout en bonus. Parce qu'à partir du moment où on se détruit soi, pourquoi est-ce qu'on irait préserver les choses qui sont autour de nous? D'ailleurs, ça, j'aime bien le montrer en disant, quand tu regardais juste ce qu'il y a au bord des routes, voilà, les gens qui balancent des trucs au bord des routes, qui sait, en fait, quand on regarde, c'est des paquets de clopes, c'est de l'alcool, c'est de la malbouffe. C'est toujours la même chose, quoi. Donc, je trouve que ça permet de vite comprendre que quand on se détruit soi, on n'a pas beaucoup de raisons de protéger ce qu'il y a autour de nous, quoi.
Pour pouvoir avoir regagné, redécouvrir cet émerveillement, il y a une histoire de temps aussi, le temps long. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Alors, il y a deux questions. Est-ce que ça, c'est la condition pour pouvoir s'émerveiller, c'est de se donner ce temps-là. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut encore le faire dans la société d'aujourd'hui qui demande plutôt à s'accélérer, à avoir des temps courts?
Oui, mais tu vois, la question, c'est OK, on accélère tous, on contribue tous à la grande accélération, mais pour aller où? Parce qu'on n'a pas cette réponse aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens font des burn-out. C'est la dissonance, avant tout. La dissonance entre le fait de mettre une énergie dingue dans son boulot sans qu'il y ait un projet de société fédérateur qui nous emporte, qui nous emmène, qui nous enthousiasme. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Tu vois, j'en parle souvent, mais... Quand je discutais avec mon grand-père sur les années 50 ou en tout cas avant, il me disait mais tous les gosses avaient des étoiles dans les yeux parce que le projet de société, il était super clair. C'était un projet de temps long. On nous parlait des années 2000. Et donc, quand on disait à un jeune, c'est quoi les années 2000? Eh ben, tous les jeunes disaient c'est les voitures volantes, c'est l'énergie infinie. Voilà, enfin, c'était tous ces trucs qui faisaient qu'on avait un projet de société. On se projetait dans la durée et c'était fédérateur, c'était enthousiasmant parce que ça nous permettait de dépasser nos petits clivages partisans du quotidien. On était tous rassemblés en tant qu'espèce et on avait ce grand projet. Alors bon, les limites physiques du monde font que ce projet n'est malheureusement pas compatible avec voilà, les limites planétaires. Mais par contre, quand on demande à un jeune aujourd'hui bah, c'est quoi 2080, c'est quoi 2100, la réponse c'est survivre. Et en fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas un projet de société fédérateur, ça ne peut pas nous emmener. Et donc le court terme, on le voit bien, c'est souvent des futilités, c'est des caprices, ce n'est pas des choses qui nous portent en tant que société. Et j'aime bien cette analogie quand je dis qu'on est un peu comme des écureuils qui essayons de faire une montagne de glands aujourd'hui alors qu'ils sont entourés par les flammes, parce qu'on se concentre sur des choses qui sont très court-termistes, qui sont juste devant nous, mais qui vont avoir des conséquences pour le reste de nos vies. Et donc, je pense que le sujet du long terme, il est absolument imbriqué avec le sujet du projet de société que l'humanité a envie de porter. Et le projet de société qu'on porte aujourd'hui, il est complètement flou. On a vraiment besoin de le définir. Et il faut qu'il soit enthousiasmant. Parce que ça, moi, c'est une conviction absolue que j'ai. On ne se lève pas pour éviter la catastrophe climatique. Enfin, je veux dire, personne n'est énergisé par ça. Moi, le premier, cette histoire, elle m'emmerde. En fait, j'ai pas juste envie d'essayer de sauver les meubles. C'est pas ça qui nous stimule. L'humanité, elle fonctionne pas comme ça. On est un être d'histoire. On a besoin de se dire que ça va être mieux. On a besoin de voir un truc enthousiasmant qui nous donne envie de nous remonter les manches et où on se dit, purée, mais en fait, on passe à côté d'un truc génial qui est faisable, qui est possible. Et donc ça, pour moi, c'est aussi très lié au sujet du bonheur, au sujet d'un humain plus apaisé. Parce que l'humain agent économique, hamster dans une roue, en fait, ça nous fait du mal et ça ne nous excite pas. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à créer ce nouveau projet où on se dit, mais oui, bien sûr, sortons de la roue. Arrêtons d'acheter des roues plus grandes, sortons de la roue, quoi.
Pourtant, dans ce que tu dis, alors on entend que c'est aussi une période de transition qui est assez dure, mais dans ce que tu dis, et toi, tu l'as vécu dans ton histoire, dans ton parcours, je pense à des marques qui font des fringues ou des trucs à 2 euros. Je pense à l'envie, l'enthousiasme qui passe par acheter une nouvelle paire de chaussures, qui passe par voir des yachts extrêmement grands, extrêmement puissants, en disant, tiens, en fait, j'aimerais bien pouvoir vivre cette expérience-là. Toi, tu l'as vécu, ce truc-là. Tout le monde ne l'a pas vécu. Et est-ce qu'il y a, alors moi je veux bien avoir ton retour dessus, est-ce qu'il y a un problème de formatage qu'on a tous, puisque, je le redis, l'enthousiasme d'aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir s'acheter un truc nouveau que d'autres n'ont pas, et il est poussé à son paroxysme, surtout par l'arrivée de la tech, et dernièrement un milliardaire américain qui a fait tout un show sur des robots, sur des... Voilà, c'est comment est-ce que tu... Comment est-ce qu'on s'oppose à ça avec dans ton idée, en fait, dans ton principe? Entre embrasser un arbre et acheter ou faire une conversation avec le dernier robot de chez T, il y a un truc qui semble plus excitant, c'est d'aller découvrir ce robot. L'arbre, je verrai plus tard, quoi.
En fait, il y a beaucoup de choses à te répondre, et puis c'est un peu caricatural de dire embrasser un arbre, on est au-delà de ça, et je pense que c'est aussi justement ne pas regarder sa montre, passer du temps avec les gens qu'on aime, se concentrer sur soi, regarder ce qui est important pour nous. La nature est évidemment une composante essentielle, mais pas que, et donc il y a plein d'autres façons hein, d'accéder au bonheur, au vrai bonheur. En fait, ce que tu dis là, c'est la différence entre bonheur et plaisir, et ça, elle est très bien documentée, elle est chimique. Donc le plaisir, ça passe par la dopamine, qui est une hormone qui est sécrétée quand voilà, on a des récompenses immédiate autour de comportements normalement liés à notre survie. Ça a été très bien instrumentalisé, tu as raison, par la publicité. Aujourd'hui, on a des milliers de stimuli publicitaires chaque jour qui nous poussent à consommer, à nous comparer, à posséder plus, et etc. Et en fait, ça sécrète de la dopamine. Mais ce qui est connu et ce qui est documenté, c'est que la dopamine, ça demande des doses toujours plus importantes. En fait, ce n'est pas du tout lié au contentement. La dopamine, c'est vous allez avoir un shoot énorme et puis vous allez redescendre. Il va falloir un shoot encore plus gros pour pouvoir retrouver le même niveau de plaisir. Et donc ça, c'est une machine à vendre. Donc évidemment, les marques ont tout intérêt à nous vendre du plaisir. D'ailleurs, si on regarde, c'est partout les injonctions au plaisir. Faites-vous plaisir, on le voit partout. En fait, il faudrait nous dire « faites-vous bonheur » si on était vraiment dans une injonction saine, puisque le bonheur, lui, il est lié à l'ocytocine, qui est une autre hormone. Et pour le coup, c'est et donc il y a la sérotonine aussi. C'est des hormones qui sont liées au contentement. Et donc là, pour le coup, c'est un état beaucoup plus stable, on va dire, qui est moins théâtral, qui est moins puissant à l'instant T, mais qui est beaucoup plus fort une fois qu'il s'est installé. Et quand, sur la durée, on le renforce à force de, justement, de petits ajouts de cette hormone, on a un état de bien-être beaucoup plus fort, beaucoup plus inébranlable, qui est long, qui est efficace pour tenir sur la durée quand on a aussi des coups durs. Et donc, c'est beaucoup plus ça, le bonheur, le vrai bonheur. Mais ça, ce n'est pas commercial et ça ne fait pas vendre parce que ce n'est pas lié à, aux possessions, aux accumulations et à tout ce qui fait aujourd'hui qu'on va pouvoir faire plus de PIB et être un bon agent économique, comme on le disait. Quand tu disais que j'ai vécu ça, c'est peut-être important d'ouvrir cette parenthèse. Moi, j'ai grandi dans le massif du Jura, dans un petit village de 200 habitants. Il n'y avait pas de panneau publicitaire chez moi. Quand quelqu'un partait à la boulangerie, on se demandait presque s'il allait revenir un jour. Bon, j'exagère, mais il fallait prendre sa voiture, il fallait rouler 20 minutes pour aller à la boulangerie. Et puis, pareil, moi, ma jeunesse, ça a été du ski de fond parce qu'il n'y avait que ça à faire. Hein. À la naissance, tu avais deux options, c'était mourir ou faire du ski de fond. Et il fallait aussi être dans un environnement où on était avec les autres, on passait du temps ensemble, dans la nature souvent. Donc tout ça, ça a été ma jeunesse sans que je réalise la valeur de cette réussite. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est complètement un modèle de réussite que je cherche aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai été un peu happé par la grande vie qu'on nous propose à toutes et tous. Hein. C'est-à-dire que pour être heureux, on nous répète tous les jours sur Instagram et partout que il faut avoir plus, avoir la belle voiture, avoir la belle carrière, côtoyer des stars, être millionnaire, etc. Et donc tout ça m'a tendu les bras un peu par hasard. Hein. J'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur à l'origine et je me suis retrouvé là-dedans. Parce que j'ai commencé à créer des communautés en ligne sur les réseaux sociaux pendant mes vacances à la fac. Tout ça s'est bien emballé et finalement, la grande vie m'a tendu les bras. Et comme tout le monde, j'ai été intrigué, j'ai eu envie d'aller voir ce que ça donnait. Et donc, je suis allé très vite, très fort dans cette grande vie parce que je me suis retrouvé ensuite à co-gérer l'Europe pour un très gros réseau social américain où, pour le coup, ma mission, c'était d'emmener des très grosses stars aux États-Unis, rencontrer d'autres grosses stars pour faire toujours plus de vues, toujours plus de likes. Il y avait énormément d'argent, on levait des centaines de millions d'euros, tout le monde était très bien payé, avait la possibilité d'être très riche. J'ai aussi vendu une de mes startups. Et en fait, dans cette grande tornade qui ne s'arrêtait jamais, il y a eu un moment où je me suis quand même rendu compte que j'étais beaucoup moins heureux qu'avant. Mais littéralement, je sentais que j'étais plus heureux du tout. Et quand je regardais autour de moi, je voyais pas beaucoup de gens qui avaient les yeux qui brillaient. Je voyais plutôt des gens en détresse, des gens épuisés, éreintés, toujours dans la comparaison jusqu'à des niveaux qui devenaient insolents. Enfin, je me rappelle très bien d'une discussion avec un mec milliardaire qui n'avait que 2 milliards, et c'était ses mots, et qui m'avait dit « Mais tu sais, moi, Arthur, je suis qu'un petit milliardaire. » Et le mec était blasé parce qu'il avait ses copains qui avaient plus de milliards que lui. Et à ce moment-là, j'ai quand même commencé à me dire que ce modèle de réussite roue du hamster du toujours plus, non seulement il ne tient pas ses promesses de bonheur, mais en plus, il déglingue les écosystèmes, parce que c'est ce moment où j'ai commencé à me documenter sur l'impact sur les écosystèmes, sur le climat, sur la biodiversité de nos modes de vie. Et il y a une corrélation directe entre notre pouvoir d'achat, on va dire, et l'impact qu'on a sur les écosystèmes. Et puis, en plus du coup de ne pas rendre heureux, de dégommer les écosystèmes, il allait flinguer notre futur bien comme il faut. Et il n'ouvrait pas la porte vers un futur qui était excitant. Là, je me suis dit, mais en fait, ce modèle de succès, ce modèle de réussite ne m'excite plus du tout. Et j'ai envie de revenir à un modèle de succès et de réussite beaucoup plus sain, beaucoup plus proche de ce que j'ai connu dans ma jeunesse. Et donc là, il a fallu déconstruire beaucoup de choses. Et surtout, c'est très difficile. Et je ne dis pas que j'ai déjà réussi à le faire parce qu'au quotidien, on est tout le temps ramené dans la roue du hamster. Il y a tout plein de petits guet-apens pour nous y ramener, tout plein de petites incitations qui ont l'air très sympas. Et donc, c'est un vrai travail de réussir à se libérer un petit peu de ça et à retrouver certains concepts qui ont été très instrumentalisés, comme la liberté, comme le bonheur.
Et donc, tu dis, les gens que tu voyais et que tu côtoyais à ce moment-là, entre plaisir et bonheur, tu ne retrouvais pas chez eux cette forme de bonheur qu'on peut, nous, imaginer sur Insta et sur les autres réseaux.
En fait, souvent, elle était dégradée. Et ce qui est paradoxal, c'est que la plupart de ces gens avaient réussi dans ce monde-là parce qu'ils avaient des bonnes bases et des bons acquis, justement, où ils étaient stables, ils avaient confiance en eux, ils étaient bien. Et dans ce monde-là, tout ça était des indicateurs en dégringolade, souvent. Pas toujours, bien sûr. Il y en a qui s'adaptent très bien. Il y avait des gens qui étaient brillantissimes au milieu de ça. Mais souvent, les gens brillantissimes au milieu de ça, qui s'en sortaient bien et qui étaient justement bien heureux, ils avaient quand même pas mal de recul et ils faisaient assez attention. Et moi, j'ai la chance d'avoir des exemples familiaux assez forts, et je pense encore à mes grands-parents, mais qui ont fêté... Bon, mon grand-père est décédé depuis, mais leurs 70 ans de mariage, tu vois, en juin. Et c'est des gens qui ont grandi et vécu dans un tout petit village, perdu toute leur vie, qui se sont mariés à 20 ans et qui, en fait, avaient encore les yeux qui brillaient là, à 90 ans et quelques, ensemble, quand ils se regardent. Et en fait, ils ont vécu des vies qu'on qualifierait aujourd'hui de simples, mais qui sont des vies profondément heureuses, profondément connectées justement au reste du vivant, profondément connectées aux autres. Et c'est des gens qui avaient vraiment ce bonheur profond, inébranlable. Quand il y a des drames au quotidien, ça se voyait parce que bah justement, ils n'étaient pas atteints comme moi je pouvais l'être quand j'étais dans mes périodes un peu compliquées. Et puis c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un burn-out. Hein. Pourtant, ils travaillaient beaucoup, hein, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est la cohérence entre les heures qu'on met dans un projet et ce qu'on est en train de faire, ce qu'on sait être en train de faire, qui est important.
Est-ce que l'une des clés, ce n'est pas la déconnexion justement ?
Ouais, ça fait aussi partie du sujet. En fait, la déconnexion, c'est très lié au fait que, ben, encore une fois, on est tout le temps ramené dans la roue du hamster, du toujours plus. Et donc, le toujours plus, les écrans, moi, je le vois, on avait des addictologues chez Thriller, donc le réseau social. C'est des gens qui étaient payés pour rendre addict chimiquement, donc via la sécrétion de dopamine. Donc, clairement, on est sur des addictions réelles, les jeunes qui utilisaient les écrans. Et donc, le but, c'était de faire en sorte qu'on ne puisse plus décrocher. Parce que nos modèles économiques sont liés au fait qu'il faut... en fait, c'est des modèles volumiques, il faut beaucoup de contenu, il faut passer beaucoup d'heures sur les écrans, comme ça, il y a beaucoup de diffusion de publicité qui permettent de générer beaucoup d'euros, etc. Et en fait, tout ça est complètement relié. La plupart des travers, aujourd'hui, sont liés au modèle économique qui pousse au toujours plus. Parce que le toujours plus, en fait, c'est l'instrument important pour pouvoir générer du PIB, si on regarde à une échelle macroéconomique, mais aussi des modèles économiques qui sont les plus lucratifs aujourd'hui, pour les entreprises, pour les marques, etc.
Qu'est-ce que tu dis aux... C'est volontairement un peu provoque, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui gagnent le SMIC, qui sont mères au foyer, parfois mères célibataires, qui rament pour récupérer, juste pour acheter du pain, quoi. Enfin, et là, nous, on vient leur dire, va chercher bonheur, reconnecte-toi à la nature. Les réponses souvent c'est vous êtes gentil mais j'ai pas le temps et quelque part vous êtes en train de me parler de moi alors que moi je me suis oublié depuis longtemps.
Tout à fait. Bah, merci de me poser cette question parce que je trouve qu'elle est essentielle. Déjà, je leur dis rien à ces gens parce que je n'ai pas à leur dire, je ne suis pas légitime pour leur dire. Moi, ce que je le dis déjà à ceux qui ont envie de l'écouter et qui peut-être se reconnaissent dans ce que moi j'ai pu vivre. Mais surtout, c'est que si je peux le faire, moi, bah, je le fais. Mais en fait, je ne cherche pas à dire à des gens « changer ». Ensuite, j'ai remarqué un truc dans ma vie, c'est qu'il n'y a rien de plus inspirant que quelqu'un de profondément heureux. Donc, si certains sont heureux, je pense que ça fait le travail tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller dire à quelqu'un quoi que ce soit. Et là où tu soulèves un point qui, je trouve, assez crucial et qui est triste de notre société aujourd'hui, c'est que souvent, les gens qui sont le plus victimes de la manipulation des marques, c'est ceux qui sont en plus les plus victimes de ce que provoque cette manipulation des marques. Pour illustrer, avec le sujet du climat par exemple, les marques les plus prédatrices qui sont aujourd'hui celles qui, on va dire, jouent le plus contre nous parce que en fait, c'est celles qui génèrent les plus gros bénéfices, souvent en s'affranchissant des normes sociales, environnementales. Évidemment, elles deviennent hégémoniques parce qu'elles peuvent écraser toute concurrence du fait qu'elles ont des profits plus importants parce qu'elles sont prédatrices. Et c'est elle qui crée le statu quo, les codes sociaux, parce que justement, on a des outils et des armes aujourd'hui, comme le neuromarketing, avec ce que je t'expliquais sur les addictologues, mais qui sont tellement puissantes qu'on peut teinter le statu quo aujourd'hui, quand on est une marque très puissante qui génère énormément de profits. Et donc, ces marques-là sont celles qui orientent le statu quo et sont celles qui vont avoir la plus grosse force de frappe pour manipuler des gens qui n'ont peut-être pas forcément le bagage éducationnel, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça, et du coup, faire en sorte que ça soit ces gens-là qui en plus te disent « Oh, vous nous faites chier avec l'écologie, nous on a d'autres urgences ». Mais ce qui est affligeant et horrible, c'est que le cynisme de ces marques se voit dans le fait que c'est ces gens-là qui sont en plus les premières victimes du dérèglement climatique. Parce que quand on a des moyens, on peut quand même éviter pas mal d'écueils du dérèglement climatique. Le premier truc qui se passe avec le dérèglement climatique, c'est pas une tornade devant chez vous, même si tout ça arrive aussi très violemment, mais c'est les prix qui explosent. Le prix de la nourriture, de l'énergie, des denrées, des loisirs. Et donc, ces gens qui sont les plus manipulés souvent par justement ce système de marque, ce système médiatique, eh ben malheureusement, c'est en plus eux qui vont le plus souffrir de cette manipulation. Donc c'est, quand on prend un peu de recul, c'est assez triste. Et c'est aussi pour ça que je ne me permets pas d'aller dire quoi que ce soit à des gens qui sont dans des situations compliquées. Par contre, on est très nombreux à ne pas être dans ces situations. Et je pense que ces gens, dont je fais partie, doivent prendre conscience du fait qu'ils ont le pouvoir de réorienter aussi certaines choses pour le mieux de tout le monde à terme.
Et là, du coup, on touche aussi le sujet du travail. Ouais. Et il y a un terme que tu as utilisé dans ton livre qui s'appelle karoshi, je ne sais pas si je le prononce bien.
Ouais, c'est japonais.
Qui est japonais. Et comment est-ce que tu le définis, ce terme?
En fait, c'est un terme qui n'existe qu'au Japon pour l'instant, mais qui définit la mort par dépassement de soi au travail. Et donc, c'est quand même pour dire à quel point on est capable de créer une sémantique autour d'un concept plutôt que de remettre en question le concept. Ça, c'est la spécialité des humains. Mais donc, c'est le niveau de burn-out le plus avancé, je pense. Et les Japonais, il y a vraiment des exemples assez fous, et j'en parle au début du livre, sont arrivés à un stade où il y a un tel besoin d'avoir une population agent économique au service du produire et consommer, au service du PIB, qu'en fait, les Japonais travaillent trop. Et donc, ils ne dépensent plus assez. Et bien sûr, pour qu'il y ait une balance commerciale intéressante, pour qu'un PIB puisse se construire, il faut des dépenses aussi. Et donc, il y a eu des campagnes de pub qui ont été menées au Japon pour inciter la population à consommer, alors à l'intérieur du pays. Et donc, il y avait des bons, des tickets qui étaient offerts à la population pour les inviter à aller un petit peu consommer parce qu'ils travaillaient trop. Et là, c'est vraiment quand on arrive au seuil de contre-productivité de ce modèle du toujours plus, dans le travail notamment, où on ne vit plus, en fait. On ne parle pas de vivre, on parle de produire et consommer et d'être le bon petit esclave, parce que là, à ce stade, il n'y a plus d'autre mot, d'une grande machine qui nous dépasse complètement. Et donc, reprendre le pouvoir, c'est aussi se poser les questions. Mais en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette vie? On en parlait en off. De quoi je serais fier à la fin de ma vie? Parce qu'un grand-père, il ne regarde pas ses petits-enfants dans les yeux en leur disant, avec des étoiles partout dans les yeux, en 2002, on a fait plus 4% de croissance au Brésil. Non, il n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ça qu'il raconte.
J'avais 120 000 followers sur Instagram.
Exactement. Il faut vraiment qu'on remette au centre de nos vies et de notre projet de société ce qui est important pour les humains. Et aujourd'hui, on se fait dépasser par nos modèles. Et c'est ça que je trouve fascinant depuis quelques temps avec Team for the Planet aussi, mais de manière générale, depuis que j'évolue beaucoup en côtoyant justement le système politique, certains ministres, des très très gros chefs d'entreprise, je me rends compte qu'on ne ferait jamais individuellement ce qu'on fait collectivement. En fait, on est dépassé par nos organisations. Notre pouvoir de collaboration, il est incroyable, c'est ce qui a fait la force de l'humanité. Mais maintenant, on a perdu le contrôle sur nos personnes morales. Les personnes morales gagnent contre les personnes physiques. Et c'est fou de constater ça. Et donc, il y a un moment où il faut aussi qu'on reprenne le pouvoir parce que on est réellement dans Matrix, là. L'humain a perdu le contrôle de sa création, quoi. Et la création, là, c'est pas l'IA, c'est nos structures, nos organisations extrêmement complexes. Et en fait, on est englué dans un cadre de normes, de règles, de contraintes qui font que les humains, même s'ils comprennent qu'il y a un problème, n'arrivent plus à s'en dépêtrer. Et c'est fou quand tu penses que... Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'un ami m'avait dit que je trouve extrêmement efficace. Bon, je divague un peu, mais il m'avait dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Alors moi, je suis plutôt athée. J'avais dit « Non, j'y crois pas. » Il m'avait dit « Pourtant, Dieu existe. » Et je lui avais dit « Alors là, je te mets au défi de me le prouver. » Il m'avait dit « En fait, comme il y a plus de 3 milliards d'humains aujourd'hui sur Terre qui croient en Dieu et qui adaptent leur comportement et leur vie à cette croyance, ils ont créé une tierce puissance liée à l'ensemble de ces humains qui ont un peu changé des trucs. Et cette tierce puissance modifie clairement les conditions de vie sur Terre pour les humains et les non-humains. Et en fait, cette tierce puissance, c'est Dieu. Aujourd'hui, nos organisations, c'est devenu cette tierce puissance qui nous a dépassés. Et je trouve que c'est hyper intéressant de prendre ce recul aussi, parce qu'on le voit dans l'entreprise, on le voit dans nos quotidiens, on le voit un peu partout. Et donc le bonheur, pour moi, c'est un des seuls projets de société qui peut fondamentalement, à la racine, motiver les humains à dire « en fait, c'est plus possible ».
Ouais, cette image avec Dieu est très intéressante, je trouve. Je ne sais pas si les spectateurs la trouvent tout aussi intéressante, mais je la trouve particulièrement efficace. Si on revient justement sur ces organisations qui nous dépassent, il y en a une qui est forcément intéressante, c'est celle des entreprises. Et on entend souvent que les entreprises qui peuvent véritablement avoir un impact sont les entreprises qui se positionnent sur du temps long. Et pour pouvoir se positionner sur du temps long, ce sont des entreprises qui ont un format plutôt familial, avec un actionnariat plutôt familial, à défaut des entreprises gérées par des fonds de pension. On est en octobre 2024, il y a un célèbre médicament qui devrait être bientôt racheté par un fonds de pension. On est encore en plein là-dedans, en fait. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi le problème entre les entreprises et le climat? Et comment est-ce qu'on peut solutionner ça sans être un doux rêveur, puisqu'on est pris dans la mécanique de cet ensemble?
Bah en fait, c'est très lié à ce que tu disais, enfin, ce qu'on se disait avant, c'est que les règles du jeu dans lesquelles les entreprises se créent et se développent aujourd'hui sont des règles du jeu du monde d'avant. Et ces règles du jeu, elles verrouillent une trajectoire pour les entreprises qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Donc l'actionnariat, c'est un des sujets. Et c'est vrai qu'on ne rentre jamais là-dedans. Monsieur tout le monde a un peu peur de ça, de l'actionnariat, des standards de rendement. C'est des mots qui font peur. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que c'est une fabrique sémantique qui permet de tenir une élite et de ne rien changer. Mais il faut mettre un peu les mains là-dedans parce que les entreprises, c'est l'outil de collaboration typiquement le plus abouti sur Terre. Si les entreprises ne changent pas, on ne change pas le monde. Donc il faut aussi avoir bien conscience du fait que tous, au quotidien, on consacre notre temps à aller travailler pour des entreprises. Et même quand parfois l'entreprise a une visée intéressante, positive, qui a l'air de vouloir contribuer au bien commun, eh ben, le cadre structurel dans lequel elle évolue aujourd'hui va l'amener à terme, si elle grossit trop, à avoir plus d'externalités négatives que les externalités positives pour lesquelles elle s'est créée. Alors pour donner un exemple, l'actionnariat, quand on a des milliers et des milliers d'actionnaires, quand on commence à avoir des centaines de milliers d'actionnaires, comme c'est le cas de beaucoup de boîtes, bah ces actionnaires, ils ont deux gros biais. Le premier, c'est la distanciation, parce qu'ils sont très, très loin de la réalité opérationnelle de ce que produit leur argent. Ils ont investi, mais c'est ce qu'on vit tous, hein, quand notre banquier nous dit « vous voulez placer votre argent par-ci, par-là », on dit « oui, mais on demande combien ça va me rapporter ». On regarde rien d'autre et on ne sait pas du tout ce qui se passe au bout de la chaîne. C'est parce qu'il y a plein d'intermédiaires au milieu, et donc les intermédiaires, eux, ils s'occupent de gérer l'argent pour nous, mais au fond, c'est notre argent. Enfin, l'épargne des citoyens, l'épargne salariale, c'est les plus grosses poches financières aujourd'hui dans le monde. Et donc, c'est ça qui crée le monde dans lequel on vit au bout de la chaîne. Mais comme il y a une distanciation de dingue et que les règles du jeu ne sont basées que sur un seul critère qui est « est-ce que je gagne du pognon ?» Oui, non. Bah à terme, tout est fait pour optimiser les profits. Et quand on parle d'optimiser les profits, à une certaine échelle, la seule façon de le faire, c'est de dégrader les conditions de pratique salariale, de dégrader les conditions de pratique environnementale de l'entreprise. Et si je suis un peu caricatural, c'est de dire en fait, rejeter directement nos effluents pollués dans la rivière, ça va nous coûter moins cher que de les traiter. Et donc, comme on est soumis à un impératif de profitabilité toujours plus important, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est du toujours plus là aussi, comme il y a des intermédiaires qui prennent leur com, en fait, faut que les profits soient colossaux. Et donc, les standards de rendement économique deviennent juste absolument incompatibles avec les limites planétaires. Et ça, il y a beaucoup d'économistes qui l'ont étudié à une échelle macroéconomique. J'en parlais encore récemment, par exemple, avec Nicolas Dufresne, qui est le président de l'Institut Rousseau, qui est un super économiste en France. Et il disait, oui, en fait, on ne se rend plus compte à l'échelle mondiale, les standards de rendement qu'on pratique en laissant penser à tout le monde que c'est normal de faire du 10% par an. Bon, alors 10%, c'est déjà beaucoup, mais même 6-7% par an, ils ne sont pas compatibles avec la capacité de renouvellement des écosystèmes, parce qu'on est 8 milliards, parce qu'on est ultra extractiviste et parce qu'en fait, les écosystèmes n'y arrivent plus. C'est pour ça qu'on crame 1,7 planète par an tous les ans, entre autres. Et le deuxième truc, c'est la division de la responsabilité. Ça aussi, c'est une mécanique psychologique qui est hyper connue, qui a été très étudiée après les différentes guerres. En fait, quand chacun a ses petites actions sans trop se sentir responsable de ce qui va se passer, là encore, on vote tous pour l'enrichissement maximum, parce qu'on a tous... Encore une fois, une matrice de lecture très restreinte, on a des œillères et donc on voit quoi? Est-ce que je gagne de l'argent? Oui, non. Et donc toutes ces règles-là, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'autres indicateurs aujourd'hui pour prendre des décisions dans l'entreprise, parce qu'il n'y en a pas, en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y en a pas qui sont mis au vrai niveau d'importance et notamment au même niveau que l'EBITDA, le profit, etc. En fait, ça fait que les entreprises, elles deviennent en grandissant de plus en plus prédatrices. Moi, tu vois, je fais partie du comité de soutien de Lumia, qui est, c'est le laboratoire de recherche le plus avancé en Europe sur l'entreprise régénérative. Mmh. Un des premiers sujets sur lesquels ils te disent qu'il faut qu'on fasse très attention, c'est ces mécaniques actionnariales qui finissent toujours par devenir l'ogre, en fait, de la raison d'être de l'entreprise. Et c'est une mécanique de collaboration à grande échelle, comme on le disait tout à l'heure, qui crée cette tierce puissance qui devient trop puissante pour tout le monde. Et là où tout le monde a créé une boîte pour faire un truc bien utile au bien commun, bah, à terme, en fait, tu te fais te dépasser, quoi.
Je veux bien qu'on revienne sur ce principe que tout le monde ne connaît peut-être pas, qui est l'entreprise régénérative. Il faut comprendre qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui suivent des standards comme B Corp ou entreprise à mission, qui sont déjà des choses extrêmement intéressantes. Et il y a un concept particulier qui est l'entreprise régénérative, qui, pour le simplifier, mais je t'invite à le compléter, est une entreprise qui n'est pas neutre dans son impact, mais qui, au contraire, a un impact positif.
Exactement. C'est un très bon résumé, mais je pense que pour donner une vision claire à tout le monde, on va prendre un petit exemple. En fait, l'entreprise régénérative, elle a travaillé au cœur de son réacteur, c'est-à-dire sur son modèle d'affaires, parce qu'en fait, tout passe par les modèles d'affaires, on vient de le comprendre. Si ton modèle économique est biaisé de base, bah, le verre est dans le fruit, et en fait, tu pourras mettre des poubelles jaunes partout et payer une flotte de véhicules électriques à tes collaborateurs, ça ne va pas permettre à terme de faire les bons choix et donc d'orienter la boîte de la bonne manière. Donc, l'entreprise régénérative, elle travaille dans le cœur du réacteur absolu, c'est-à-dire le modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on fait gagner de l'argent à l'entreprise ? Faut quand même pas oublier, hein, on consacre tous en moyenne 100 000 heures dans une vie à une entreprise. C'est colossal. Donc, nos vies, c'est 11 années en cumulé. Une énorme part de nos vies est utilisée pour aller donner notre force de travail à des entreprises. Il ne faut pas le prendre à la légère. C'est le truc le plus important qu'on puisse faire, de questionner le modèle de notre entreprise et l'utilité fondamentale de notre entreprise. Tout le reste, tous nos petits gestes écolos, si on ne questionne pas ça, ça restera des anecdotes, en fait. Et donc, l'entreprise régénérative, en travaillant sur les modèles d'affaires, elle s'est rendue compte, enfin, en tout cas les gens qui ont travaillé là-dessus, que certains modèles d'affaires renversaient complètement le paradigme. On passait complètement d'une boîte prédatrice à une boîte régénérative juste en changeant des petites choses. Et un exemple que j'adore, c'est une boîte qui vend toujours des pneus en Amérique du Sud, si je ne dis pas de conneries. Donc, ce n'est pas Michelin, et qui a travaillé à passer en entreprise régénérative. Et donc, elle avait un modèle économique volumique. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle vendait un pneu, bah, elle faisait de la marge sur le pneu. Donc, son intérêt, c'était de vendre un maximum de pneus, donc des pneus de mauvaise qualité, puisqu'il faut qu'ils s'usent vite pour en vendre un maximum. Et donc, tout ça a amené un cercle vicieux assez horrible, ce qui finit avec des charges à ciel ouvert qu'on a tous vues, avec des millions de pneus qui sont là et qui sont un cancer absolu. Et donc, ils se sont demandé comment ils pouvaient casser ce cercle vicieux. Et ils ont décidé de passer sur un modèle d'usage. Donc, on en entend souvent parler autour de l'entreprise régénérative. Et de dire, eh ben maintenant, on va vendre des kilomètres parcourus. Donc, pour chaque kilomètre parcouru par nos pneus, n'importe lequel de nos pneus, on sait très bien traquer ça, on facture. On facture X centimes par kilomètre. Enfin, peut-être pas centimes, mais micro-centimes. Et là où ça change tout, parce qu'en soi, là, on a l'impression qu'on n'a pas changé grand-chose, il y a toujours les mêmes équipes, les mêmes commerciaux qui vendent les pneus. Enfin voilà, on n'a pas fait un changement stratosphérique de l'organisation de la boîte. Mais par contre, soudain, si on veut que la boîte soit bien profitable, en tout cas qu'elle ait des rendements économiques suffisants pour pouvoir continuer d'exister, eh ben, il va falloir que les pneus ils durent longtemps. Parce que là, avoir des pneus qui s'usent très très vite, quand on vend des kilomètres, ça devient une opération économique perdante. Et donc, il faut faire en sorte que les pneus, on en vende le moins possible. Donc, on sort complètement de ce truc où on produit des millions de pneus, on essaie d'en produire le moins possible. On réduit notre coût matière, donc économiquement, ça devient très intéressant aussi. Et par contre, pour produire des pneus qui durent très longtemps, bah, on ne peut pas aller prendre des EVA en monoculture comme on le faisait avant avec un caoutchouc de basse qualité qui permet de faire des pneus de merde qui vont s'user vite. Là, c'est l'inverse qu'on cherche. Et donc, ce qu'il faut, c'est des EVA centenaires ou monocentenaires, enfin multicentenaires dans des grandes forêts, du coup, qui ne sont pas des plantations, mais qui sont des vraies forêts, où il y a de la biodiversité, etc. Et donc, on ne peut plus tuer forcément l'arbre, il faut faire des petits prélèvements, laisser les arbres se régénérer. Mais ça tombe bien, parce qu'on a besoin de quantités moins importantes, et donc on se retrouve à préserver des forêts centenaires, plutôt que de faire des monocultures et raser des forêts pour faire ces monocultures. Et c'est fou, parce qu'on a changé un truc, qui est le modèle d'affaires initial, et finalement, tout ce qui en découle... pour des incitations de modèle économique, alors on ne va pas faire des maxi rendements hardcore parce que on peut pas. Il y a une certaine taille de forêt centenaire préservable, il y a plein de choses et il y a eu plein d'expériences très intéressantes où ils se rendent compte qu'au bout d'une certaine taille, tu ne peux plus être régénératif. Donc il faut aussi accepter que ta boîte ne va pas être les mastodontes comme ceux qu'on voit aujourd'hui qui sont des boîtes internationales qui monopolisent un marché. Mais par contre, jusqu'à une taille très intéressante, tu arrives à faire contribuer des centaines de collaborateurs à un projet qui finalement restaure des forêts, quoi. Et donc, ça, c'est une entreprise régénérative, par exemple.
Dans le temps long, on peut aussi, on a parlé des entreprises, mais on peut également parler des fonds. Quelque part, je suis désolé de le simplifier au maximum, mais Team for the Planet, c'est un fonds à impact sur lequel vous, vous choisissez des entreprises, vous les portez, vous les faites grandir. Est-ce que dans le choix et dans le modèle de Team for the Planet, sur lequel tu pourrais revenir, même si je pense que beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui, mais peut-être redonner quelques clés, est-ce que vous avez fait également ce choix du temps long ?
En fait, complètement, parce que là encore, c'est un biais. On a parlé de l'entreprise, mais parlons du monde économique, on va dire financier. Il y a les mêmes problématiques. Et typiquement, aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'un certain nombre d'initiatives majeures, transformatives, vraiment structurelles, pour pouvoir bâtir ce fameux monde de demain soutenable. Parce qu'on aura beau tous changer nos comportements, on aura beau essayer de faire le mieux qu'on peut en tant qu'individu pour le climat, tant qu'il y aura des milliards fléchés vers des modèles qui font l'exact inverse et qui en plus dépensent des milliards en publicité pour nous ramener, nous, vers des comportements moins vertueux, en fait, on ne va pas gagner dans ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé avec Team for the Planet ? On a rencontré plein de scientifiques au démarrage qui nous ont dit les initiatives dont on a besoin pour faire cette transition, donc structurelle, en fait, elles sont déjà toutes là. N'attendons pas le miracle technologique parce que ça, c'est une croyance et ça n'arrivera pas. Prenons ce qui existe parce qu'il y a déjà plein d'initiatives géniales et aidons-les à se déployer parce que c'est ça le premier problème. Et la raison pour laquelle elles ne se déploient pas, en fait, il y en a deux. La première, c'est que les scientifiques, chercheurs, ingénieurs qui sont à l'origine de ces initiatives, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, quand il s'agit de trouver un modèle économique viable, parce qu'il en faut, on ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite. On n'est pas en train de faire une amalgame, là. On parle d'avoir des modèles économiques viables, mais pas des modèles économiques prédateurs du toujours plus. C'est ça, la différence. Eh bien, ces innovateurs, ils ont besoin d'un entrepreneur, justement, pour être capable de déployer leurs innovations. Ça, c'était un premier truc. Et donc, nous, Team for the Planet, on va trouver un peu le Steve Wozniak qui porte l'innovation géniale et le Steve Jobs, qui est l'entrepreneur capable de faire en sorte qu'elle se déploie. Mais il y avait un autre constat, c'est que le monde économique traditionnel ne savait plus financer ces boîtes-là, enfin, ces innovations. Et elles ne rentraient même pas dans leur radar parce que justement, les standards de rendement, à force de course à la compétitivité, étaient devenus tellement aberrants, tellement élevés, que le monde financier, aujourd'hui, il ne sait financer, si je suis caricatural, que soit des futures licornes en misant en mode casino sur le potentiel maximal de valorisation.
Licorne,
des boîtes qui sont valorisées à un milliard, c'est un peu la frénésie qui est en train de se passer un petit peu quand même, qu'on a eu en France avec la Startup Nation. Citez-moi trois licornes d'il y a 4 ans. Voilà, je pense que ça suffira pour que tout le monde se rende compte que ce n'est pas forcément ça qui fait une économie robuste. Et puis, le sujet, c'est aussi qu'ils n'arrivent pas à les financer, ces projets, parce qu'ils sont obligés d'avoir des impératifs de court terme, enfin des sorties, quand ils investissent de l'argent dans ces projets. Il faut qu'ils puissent revendre leur participation très, très vite. Mais en fait, ces boîtes dont on a besoin, elles sont structurelles, mais ça ne va pas être des trucs où ce n'est pas des applis de rencontre, quoi. Je veux dire, on ne va pas faire x100 sur son investissement au bout de 5 ans et puis pouvoir sortir avec un gros chèque. Et donc, comme le monde économique ne s'est plus du tout structuré pour financer les projets dont on a besoin, qui demandent du temps long, et ben en fait, les initiatives majeures pour la transition ne sont pas financées. Ça, c'est vraiment un constat de dingue qu'on a fait. Et même avec des organismes publics qui ont pourtant cette casquette plus temps long et tout, ils sont tellement soumis à la pression, à la compétitivité, qu'en fait, ils passent à côté des dossiers. Et on a eu plusieurs témoignages de gens très influents dans des organismes de financement public qui nous disent « On a vu ce dossier, on savait que ce dossier était essentiel pour la transition écologique, mais on n'a pas pu le financer. » Et ça, ça nous arrive très souvent. Donc nous, on a pensé le modèle Team for the Planet pour se libérer de ces contraintes de l'hyper-profitabilité à court terme. Et typiquement, on a la chance d'avoir un modèle où nos actionnaires nous demandent seulement du rendement extra-financier, donc des dividendes climat, des tonnes de CO2 évitées. Ils n'attendent pas de rendement financier. Ils font travailler leur argent parce que leur argent sert à créer des boîtes qui génèrent des profits. Sauf que nous, tous les profits sont réinjectés pour relancer des boîtes, toujours pour décarboner, des innovations qui sont structurelles pour la décarbonation. Et chaque année, ils touchent donc le nombre de tonnes de CO2 évitées grâce à leur argent, ce qui fait que la façon dont ils pilotent la boîte, elle est radicalement différente de celle que peuvent avoir d'autres actionnaires. Nous, ils imposent justement un maximum d'impact, puisque c'est le critère décisionnel numéro 1. Et donc, pour imposer de l'impact, ils forcent à ce qu'on s'occupe correctement des boîtes sans chercher à être dans la profitabilité maximale. À partir du moment où c'est rentable, c'est OK. Et on se concentre pour augmenter à chaque fois l'impact et atteindre le plus haut potentiel d'impact des innovations. Et puis, ça nous laisse vraiment une dynamique de temps long, puisqu'on n'est pas dans la pressurisation de « il faut que je fasse x3 sur mon argent à 4 ans ». Non, Chaque année, ils voient leur dividende climat et leur dividende climat augmente chaque année si on fait bien notre job. Mais ça oriente complètement la boîte différemment et c'est ce qui fait que typiquement, on peut avoir des modèles qui sont pensés bien au-delà de ça, puisque nous, toutes ces innovations, on les met en licence libre. Donc, c'est inspiré de l'open source. En gros, n'importe qui peut copier-coller nos innovations partout dans le monde et les commercialiser gratos. Par contre, en échange de ça, il y a un certain nombre de devoirs, repartager leurs propres améliorations de l'innovation et partager les tonnes de CO2 évitées. Ce qui fait que nous, on cumule les tonnes de CO2 de nos propres boîtes et de toutes les boîtes qui peuvent se créer grâce à ces licences. Et donc, nos actionnaires, contrairement à des actionnaires traditionnels qui vont être complètement fermés à la collaboration et plutôt dans un modèle de compétition assez violent, bah nous, ils sont très ouverts à la collaboration parce qu'ils y gagnent, en fait. Et donc, eux, ils ont intérêt à ce qu'on crée nos concurrents et ils nous encouragent à le faire. Ça, c'est des trucs qui ne sont jamais vus. Et c'est des petits changements de paradigme. Mais en fait, quand on parle d'une urgence climatique où il faut agir très, très vite, on a complètement intérêt à faire ça. Et d'ailleurs, les penseurs sur ces questions, comme Olivier Amand, qui te parle de robustesse de l'entreprise de demain, ils te disent que l'entreprise de demain, c'est des flottilles de plein de petites unités parce que c'est ça qui fait qu'on est robuste. C'est que s'il y a 3-4 unités qui se font cuter au milieu pour différentes raisons, parce qu'on est dans un monde instable, bah la flottille, elle tient le choc. Et en fait, aujourd'hui, on a des mastodontes type licorne, hégémoniques, mais très peu robuste. Et donc, il faut qu'on repense beaucoup de choses.
Et ça, ça touche à autre chose que tu as dit sur les problématiques systémiques. C'est-à-dire que on est dans une... L'image que j'ai, moi, en tête, c'est une énorme pelote de laine verte ou rose, selon. Et on ne sait pas trop par quel fil on pourrait tirer la pelote. Surtout qu'on nous interdit de le faire parce qu'attention, vous risquez de tout péter. Et donc, si je prends le sujet, par exemple, du plastique, qui est un sujet éminemment complexe et sur lequel il y a les initiatives qui ont été faites sont difficiles parce que tout de suite on va toucher des... Alors il y a du lobbying derrière, mais tout de suite on va toucher pour la santé, pour l'alimentation, enfin il y a beaucoup de choses qui sont derrière. La myriade de petites activités, comme tu le dis, permet d'attaquer la pelote dans tous les sens. Vous, chez Team for the Planet, les structures que vous accompagnez, c'est des boîtes qui prennent un micro-sujet sur quelque chose, sur un ensemble, ou alors vous attaquez véritablement l'énorme sujet, quoi.
Non, on attaque plutôt les énormes sujets avec beaucoup d'humilité, sans prétendre qu'on va les résoudre tout seul, parce que ça serait complètement faux et fou. Mais par contre, nous, on ne va que sur des sujets qui peuvent vraiment tacler... un secteur qui est très, très, très émetteur de gaz à effet de serre. Tu parles du plastique. Je pense à Crimirotech qui a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Monomeris Chemical parce qu'ils font des monomères. Eux, typiquement, ils s'attaquent au sujet du cycle du plastique à usage unique parce qu'aujourd'hui, pour que les gens comprennent sur le sujet du plastique, on ne recycle dans le monde que 9% des plastiques. Et quand on recycle les plastiques, donc tout le reste est enfoui ou incinéré. Autant vous dire, c'est un enfer absolu. C'est pour ça que maintenant, il y a des microplastiques absolument partout, dans le placenta des femmes enceintes, dans l'eau, partout. Il n'y a plus aucune goutte d'eau aujourd'hui qui n'est pas impropre à la consommation dans la pluie. Enfin, il faut quand même qu'on réalise où on en est arrivé, quoi. Et ce qui est problématique, c'est que ces 9% recyclés, en plus, ne sont que dans un cycle unique, parce qu'en fait, on va refaire des pots de fleurs, des poubelles, mais une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas recycler à nouveau. Donc, c'est une impasse. Et en fait, ce qu'arrive à faire... Monomeris Chemical, je vais réussir, ils viennent de changer de nom, ils arrivent à passer les plastiques à un état gazeux grâce à un fluide ionique. Bon, voilà. Et donc, à cet état gazeux, ils arrivent à les séparer en monomères. Donc là, on peut réutiliser cette matière, par exemple l'éthylène. Ça devient de l'éthylène circulaire qui est très utilisé par les industriels pour faire plein d'autres choses que du plastique. Des cosmétiques, des couches pour bébés. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et donc, on refait une matière première à partir d'un déchet qui est le plastique et qui redevient du coup la matière première d'un autre produit qui est typiquement de l'éthylène qui va être utilisé pour d'autres applications industrielles. Et ça, tout seul, c'est un énorme sujet. Mais toutes les initiatives Team for the Planet s'attaquent à des sujets qui représentent des centaines de millions de tonnes de CO2. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit qu'il ne faut pas que ça repose que sur nous, ces initiatives. Il faut que d'autres puissent s'en emparer. Si nous, on n'est pas assez bons, si pour X ou Y raison, on n'y arrive pas, d'autres doivent pouvoir réussir partout dans le monde. Ce qui est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup de très belles initiatives qui sont tuées dans l'œuf par des boîtes qui se les accaparent dans des perspectives lucratives et qui n'en font rien, du coup, et qui privent l'humanité de choses dont on a absolument besoin. Donc tout ça, c'est des sujets vastes, complexes, mais sur lesquels il faut qu'on aille.
Sur le sujet plastique, je vous invite tous à regarder les recherches qui ont été faites par Nathalie Gontard, qui explique de manière très, très précise cette grande problématique est beaucoup plus complexe et assez terrifiante, particulièrement terrifiante d'ailleurs, un peu comme tu le dis, Arthur. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des solutions, il y a des mécaniques qui sont mises en place. On est aussi sur un moment, une période de transition où les mondes s'opposent. Il y a des choses que l'on peut faire au quotidien, il y a des mouvements qu'on peut avoir. Et finalement, dans ton livre, c'est ce que j'en ai retenu, il y a cette idée de mouvement, de premier pas, des actions qu'on peut enclencher qui peuvent paraître très très simples, mais qui nous créent, qui crée une habitude, qui crée un rituel, qui nous place dans un autre état mental. Il y a dans ton livre, il y a une histoire que tu racontes. Alors moi, je l'ai sous les yeux, tu ne l'as peut-être pas. Donc, à moins que tu la connaisses par cœur, je vais la lire.
Je peux la raconter, mais je te laisse le faire avec plaisir.
Ah non, si tu la connais, je te laisse la main, vraiment. Elle est assez magnifique, moi, elle m'a beaucoup touché dans cette idée de mouvement.
C'est une histoire qui permet de résumer, je pense que tu parles de celle-là, j'espère, mais qui permet de résumer vraiment... fondamentalement les questions qu'on s'est posées en début d'entretien et qui est très liée justement au sujet du bonheur, au sujet du pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on veut. Et donc c'est un petit pêcheur, mexicain, c'est bien celle-là, ouais Arnaud,
je me trompe pas. Oui, c'est celle-là, ouais.
Parce que bon, je voulais quand même être...
Il y en a une deuxième après, mais c'est celle-ci.
Ok, c'est un petit pêcheur mexicain qui fait sécher ses filets au bord du port, tranquillement, elle est très connue, elle a tourné beaucoup sur Internet. Et puis, il y a un Américain, un businessman qui arrive en costard et qui lui dit, excusez-moi, il est à vous le bateau là-bas? Et le petit pêcheur, il dit oui, pourquoi? Et l'Américain, il dit il n'est pas très gros quand même. Le petit pêcheur, il est un peu étonné, il dit d'accord, et après? L'Américain, étonné aussi, il dit je sais pas, vous pourriez retourner pêcher, comme ça vous auriez plus de poissons, plus de rentabilité, vous pourriez vous acheter un bateau plus gros. Le petit pêcheur, toujours étonné, il dit d'accord, mais et après? L'Américain, il commence à être un peu offusqué, il dit et après, vous pouvez acheter d'autres bateaux, vous faites une vraie boîte, peut-être une firme, vous grossissez quoi. Petit pêcheur, toujours un peu dubitatif, il dit « Et après ?» Et l'Américain, il finit par s'énerver, il dit « vous rentrez en bourse, vous devenez millionnaire, enfin voilà, quand même, c'est quand même pas dur. » Et le petit pêcheur, une dernière fois, il dit « Mais et après ?» Et l'Américain, il en peut plus, il dit « vous pourrez vous reposer. » Et là, le petit pêcheur, il dit « c'est ce que je suis en train de faire. » Exactement. Et je trouve que c'est extraordinaire pour ramener vraiment la simplicité dans un débat autour du toujours plus, dans lequel on est tous emportés. Voilà, des fois, il faut se poser les bonnes questions et reprendre le truc à la racine, quoi.
Ça a fait l'objet d'un sketch, en fait, cette histoire. Un vieux sketch, un très vieux sketch. Et je le mettrai comme lien dans les commentaires. C'est une très, très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et il y en a une deuxième. Alors, il y avait celle-ci, mais il y en a une deuxième, qui est celle de l'Indien, de l'Indien Cherokee. Donc, je vais la lire.
Ouais, lis-la parce que celle-là, je ne peux pas la faire.
Oui, puis je la trouve vraiment, vraiment magnifique dans cette idée, en fait, de nourrir un mouvement positif, d'être dans la bonne, dans la bonne mouvement. Donc, je vais la lire. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens. Et lui dit, « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris. » Et je trouve elle est magnifique, en fait. Elle dit tout. Elle raconte tout. Et dans ce que tu nous expliques depuis... maintenant, je me suis perdu dans le temps, mais quelques dizaines de minutes. C'est un peu ce que tu dis. On a un choix à faire dans nos vies. Et la réalité, c'est finalement... que l'on soit riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, ce choix, c'est celui du bonheur, c'est celui de l'alignement avec soi. Il est compliqué, il est difficile, il est loin d'être évident parce que autour de nous, on a cette pression du jour le jour. Alors surtout si on est malade, en plus, il y a d'autres enjeux qui nous sont personnels. Mais il y a un mouvement à mettre en place pour aller chercher ce bonheur-là. Et ce que j'aimerais, peut-être sur ça qu'on pourrait... conclure cet entretien, c'est de manière très pragmatique, très simple, en fait. Quelques clés de ces premiers mouvements. Tout à l'heure, je caricaturais en disant embrasser un arbre. Oui, c'est une caricature, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est quoi, en fait, les premières actions que chacun devrait enclencher pour aller chercher ce bonheur-là et cet alignement avec soi-même?
Bah, déjà, moi, j'aime bien emmener les gens vers des... Je vais en parler juste après, j'ai un petit jeu, justement, j'en parle dans le livre, mais faut pas oublier, et tu as complètement raison, que c'est un truc qui se muscle. En fait, on peut être entraîné au drame ou entraîné au dream. Et en fait, c'est une histoire de pratique. Notre cerveau peut vraiment devenir une machine à voir tout ce qui va pas, à relever tous les trucs qui nous mettent mal. Et là, on part dans une spirale de l'enfer. Ou à l'inverse, et ça, on est moins entraîné. Et pourtant, on peut le faire aussi. Une machine à voir le dream un peu partout et tout ce qui est beau. Et donc moi, un petit jeu que je fais souvent, parce que ça me fait du bien... En fait, on est tous baignés dans un système médiatique qui a beaucoup plus intérêt à montrer ce qui ne va pas. Alors, c'est intéressant hein, parce que ça nous permet aussi de nous y confronter et de relever les défis. Mais c'est aussi orienté par le biais de négativité que les humains ont, qui est très bien documenté et qui explique qu'en gros, on a toujours tendance à être plutôt négatif parce que ça, empiriquement, c'est ce qui nous sauvait. Je dis que quand la fougère bouge, il vaut mieux se dire qu'il y a un tigre à dents de sable et se barrer en courant que se dire « t'inquiète pas, c'est un papillon, tout va bien aller ». Et en fait, ce biais de négativité, il a infusé partout nos médias et en fait, on est noyé de mauvaises nouvelles. Mais il y a un petit jeu que j'aime bien inviter les gens à faire, c'est de compter les points. Chaque fois que vous allez voir quelque chose de beau, soit un sourire, quelqu'un qui donne un coup de main à quelqu'un, une œuvre d'art, quelque chose de beau, voilà, qui vous touche, qui vous fait du bien, vous comptez plus un point. Et chaque fois que vous voyez quelque chose de laid, des gens qui s'engueulent, quelqu'un qui crache dans la rue, voilà, enfin ce genre de choses, vous comptez moins un point. Et en fait, ce jeu est assez génial parce qu'il met vraiment le pied à l'étrier pour se mettre dans une bonne dynamique, tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement plus de beau que de moche. Et en fait, ça, on ne le voit plus parce qu'on n'est plus exercé à regarder le beau, mais il y en a partout. Et ça, ça sort le cerveau du pilote automatique et ça permet de se rendre compte qu'en fait, on passe à côté de trucs magnifiques qui peuvent nous apporter énormément de joie au quotidien, tous les jours, simplement parce qu'on se laisse embarquer, parce qu'on est devenu des machines surentraînées à ne se concentrer que sur nos petits tracas, nos petits travers, tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est une première clé que je trouve vraiment intéressante parce que ce jeu, il nous permet de hacker un petit peu notre cerveau de ces choses-là. Le deuxième truc, pour moi, c'est vraiment le contact avec la nature. Enfin, voilà, on en parlait tout à l'heure, on a parlé du Japon, j'en reparlais dans le livre, mais là-bas, ils prescrivent déjà des choses, notamment la sylvothérapie, aller faire des bains de forêt, des marches en forêt, parce que en fait, on s'est rendu compte que les arbres sécrètent des phytoncides, c'est des toutes petites particules qu'on inhale, et en fait, elles font baisser les niveaux de cortisol, donc l'hormone liée au stress, pour le coup, et donc augmentent les défenses immunitaires du corps. C'est très bien pour plein de choses, hein, mais pour réduire les risques de cancer, etc. Et donc, avoir des contacts simples avec la nature, et même quand on habite en ville, on peut le faire. Des fois, il faut aller un petit peu en bordure de ville, mais il y a toujours des parcs, des bois, des choses comme ça, où on peut trouver ce contact avec la nature. C'est absolument indispensable, je pense, si on veut réellement être heureux. Encore une fois, la vraie question, c'est voulons-nous vraiment être heureux? Mais en tout cas, pour celles et ceux qui souhaitent profondément se sentir mieux, se sentir bien, la nature, c'est un indispensable. En fait, beaucoup de gens me disent « Oui, mais toi, tu as grandi à la campagne. Nous, on a grandi à la ville. C'est pas pareil. On n'a pas besoin de la nature. » Mais c'est faux, en fait. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a plein d'études qui le montrent clairement. Tout le monde en a besoin. On part de plus ou moins loin, on est plus ou moins capable de réceptionner tout ce que la nature nous offre et on n'a pas besoin de faire un câlin à un arbre, je vous rassure. Il suffit de s'asseoir, de regarder, de prendre le temps, de respirer, de ne pas regarder sa montre, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de se laisser envahir par le calme. Et il y a quelque chose au-delà du physique qu'on a autour de nous qui s'empare de nous. Typiquement, les phytoncides, c'est l'incarnation de ça, mais... Il faut vraiment, je pense, passer du temps dans la nature pour être bien. Et ça ferait beaucoup, beaucoup de bien à l'humanité de se reconnecter avec cette nature parce que, en fait, quand on réalise tout le bien qu'elle nous fait, on a aussi envie de la préserver, c'est assez normal. Et puis après, bah, une autre clé, arriver à ralentir et donc lire, je trouve que c'est très bien pour reprendre justement le contrôle du temps long, sortir un peu de ce truc, de ces trous infernales des écrans où on ne sait même plus combien d'heures on a passé là-dessus. On s'est fait embarquer dans un scroll infini qui, pour moi, est l'incarnation même de la roue du hamster version 2.0. Vraiment, on fait tourner la roue comme ça avec notre pouce. Et en fait, lire, c'est aussi reprendre un peu de contrôle. C'est redonner un peu de temps à notre cerveau pour que, justement, il reprenne du recul, il se repose les bonnes questions pour qu'on puisse un peu s'affronter aussi, parce qu'on ne s'affronte plus, on est plus seul avec nous aujourd'hui. Et donc la lecture, mais aussi la nature, permettent ça. Et je pense que c'est crucial pour se sentir mieux et pour pouvoir prendre les bonnes décisions et contribuer à sa petite échelle à faire tourner l'énorme navire de l'humanité vers quelque chose d'enthousiasmant. Parce que je suis convaincu, absolument convaincu, et il y a plein d'exemples pour ça, que vraiment, le demain qui nous tend les bras, à partir du moment où on déconstruit ce plaisir très commercial derrière lequel on nous fait courir tout le temps et où on s'en détourne, et en fait, demain est foisonnant d'opportunités de bonheur. Parce que toutes les choses dont on a absolument, viscéralement besoin pour être heureux, elles sont là. Et donc tout ça, ça ne va pas disparaître. Au contraire, ça va être augmenté si on fait les bons choix. Vraiment, je suis assez convaincu qu'on a intérêt absolument à aller vers ce demain.
Il y a, et c'est vraiment le mot de la fin, il y a un terme que tu as utilisé. Et j'ai hésité à conclure avec ce terme-là parce que je me suis dit, OK, en fait, certains vont dire que c'est pas dans l'époque, c'est compliqué, il ne faut pas l'être, etc. Et je vais donner le terme, mais en fait, j'ai lu hier soir, quand j'ai fini ton livre, j'ai lu une citation de Barack Obama, que je ne vais pas me permettre de reciter, je la mettrai également en commentaire, parce que je pense que je vais me foirer sur l'anglais. mais c'est une superbe phrase qu'il a eue lors de l'enterrement d'un sénateur américain qui avait donné beaucoup de sa vie sur la cause raciale aux États-Unis. Et ce terme, c'est celui de la gentillesse. Être gentil. Ça va même un autre terme qu'on utilise moins en moins, mais qui commence à réapparaître, c'est celui de la compassion qui remplace celui de l'empathie, d'ailleurs. On pourra faire toute une conf là-dessus, mais... Et en fait, je voudrais juste finir là-dessus. Est-ce que accepter d'être gentil, c'est pas l'une des clés, en fait, de ce bonheur?
Si, tu as raison, merci de m'amener là-dessus, parce que ça fait clairement partie des choses qui sont importantes aussi pour moi, et tu as raison, c'est une des clés. Être gentil, ça permet de se sentir bien déjà avec soi-même, mais surtout, ça a un vrai impact sur le monde, sur ses projets, et moi, je considère que c'est un outil extrêmement utile aussi. Aujourd'hui, c'est raillé, on a l'impression qu'être gentil, c'est être naïf, c'est se faire marcher dessus. En fait, la réalité, c'est que ça permet de faire des essais-erreurs très très vite, d'identifier très vite des gens de confiance avec qui on peut faire des choses, de s'entourer correctement, et on ne fait rien tout seul. Donc tout dépend de son entourage. Et la gentillesse, pour moi, c'est vraiment le maillon clé pour pouvoir construire un demain meilleur et le faire avec des gens qui seront capables de porter un projet avec nous, parce qu'il en faut pour porter des gros projets. J'ai la chance, moi, d'être entouré de gens particulièrement gentils, et je suis assez convaincu que c'est vraiment important... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça fait un peu Disney, mais il y a des forces, entre guillemets, qui nous donnent envie de nous dire, en fait, pour lutter contre ces forces, il va falloir que nous aussi, on sorte les dents, que nous aussi, on y a le... Mais en fait, j'ai l'impression qu'à part nous polariser, nous précipiter plus vite vers des conflits, vers la guerre, on ne s'élève pas en faisant ça. Alors peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, moi, jusqu'au bout, je déciderai de rester gentil, ne serait-ce que pour qu'à la fin de ma vie, je puisse me dire, j'ai été fier d'être gentil. Je crois qu'on en a vraiment besoin.
Merci Arthur, merci beaucoup. Donc, je replace le livre « Le meilleur est à venir » aux éditions Fayard. Achetez-le, c'est vraiment chouette. Voilà, ça vous amène dans l'univers d'Arthur, dans tout ce qu'on a pu raconter, mais pas que. On va profondément dans cette histoire et on ressort de ce livre un peu émerveillé. Voilà, merci beaucoup Arthur.
Ça me touche beaucoup, c'est exactement pour ça que je l'ai écrit. Donc merci à toi Arnaud, et puis au plaisir alors.
À très bientôt.
Salut.